Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour professeur Gilles Pialoux.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, auteur de nombreux livres, on va y revenir. Évidemment, ce matin, cette question. L'antivirus est donc présent sur le sol français. Une malade, 4 anciens membres du bateau de croisière, 8 cas contacts dits à haut risque et 14 cas contacts dits modérés. Qui, quoi, comment avons-nous les moyens de faire face? C'est toutes les questions pour lesquelles nous avons besoin de vos éclairages. D'abord sur la personne qui est aujourd'hui malade, infectée. On dit que son état est stable, mais qu'elle est en réanimation. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ce matin?
Alors c'est vrai que j'ai pas d'information directe puisque c'est quand même le blocus sur ça, mais effectivement elle est en réanimation. Comme vous le savez, ces virus des Amériques sont des virus qui touchent au niveau respiratoire et cardiaque. Ça a été expliqué tout à l'heure par Margot de Fauville, et donc avec des atteintes assez sévères pulmonaires, avec quelque chose qui rappelle d'ailleurs sur ce point le Covid, c'est-à-dire que c'est plus la réponse immunitaire qui rend malade. Et c'est vrai que c'est important que ces patients soient dans des structures où ils ont l'habitude de cette réanimation qui peut être très lourde, qui peut aller, comme ça a été dit, jusqu'à la circulation extracorporelle. Et on l'a vu dans un exemple en Argentine à la fin des années 2018-2019.
On va revenir sur ces cas et sur ce que l'on sait de ce virus. Au moment où l'on se parle, effectivement, les 5 anciens membres de cette croisière, dont la personne malade, sont à l'hôpital Bichat à Paris. Les symptômes de cette maladie, ce sont lesquels?
Alors c'est vrai que il faut être un peu humble si je puis me permettre et accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître.
Et par ailleurs, le virus lui-même peut avoir évolué.
Alors le virus, c'est un virus qui mute beaucoup. Hein, on est toujours dans les virus ARN et celui-là, les Argentins notamment qui en ont beaucoup chez les rongeurs, ont déjà publié plusieurs séquences de ce virus des Andes. On a des nouveaux virus chaque année, un nouvel antivirus à peu près chaque année dans les sous-espèces. Et deuxièmement, une mutation permanente qui est presque plus élevée que celui du SARS-CoV-2, du Covid ou du VIH, pour prendre deux virus ARN. Donc, effectivement, il peut y avoir une mutation. Par contre, ce qu'on peut pas dire, personne ne peut dire si cette mutation qu'on observe régulièrement sur ces virus a un impact sur la transmissibilité ou un impact sur la gravité de la maladie qui est déjà fortement élevée.
La gravité de la maladie d'abord. Les premiers symptômes, semble-t-il, peuvent arriver de manière très soudaine. La malade en question, ce qui nous est dit, c'est que lorsqu'elle quitte le bateau, qu'elle monte dans l'avion, elle ne présente pas de symptômes. C'est dans l'avion qu'elle présente les premiers symptômes, fièvre semble-t-il, qu'elle est testée et en moins de 24 heures, on apprend un, qu'elle est effectivement atteinte du virus et deux, que son état s'est fortement aggravé. En 24 heures donc.
Ben ça, c'est ce qui a été décrit effectivement notamment par les Argentins entre autres hein, et aussi les Chiliens, c'est qu'il y a et on a vu ça avec le cas index, c'est-à-dire rentre le 1er avril à Ushuaia sur le bateau, le 6 avril il présente des symptômes.
Le cas index, c'est donc le premier malade, semble-t-il, celui qui monte sur le bateau atteint de ce malade. Et qui est mort depuis.
Parce que tout le monde nous dit, mais il y avait sûrement des rats sur le bateau. Là, pour l'instant, cette hypothèse est complètement écartée. Et donc, on est dans une hypothèse de quelqu'un qui rentre sur un bateau dans un milieu confiné et avec une transmissibilité qui va commencer par son épouse.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le déroulement à la fois au moment où il semble le contracter, 1er avril, le moment où les symptômes commencent à se manifester et puis la dégradation?
Ce que je voulais vous raconter, le 1er avril, il monte. Le 6 avril, il a des symptômes qui sont assez banaux au début. Toux, fièvre, etc. Il va s'aggraver très très vite et il décède le 11 avril. Donc c'est une pathologie extrêmement rapide et ça a été décrit dans le seul cas bien documenté qui est le cas de Plantagoni qui a été publié en décembre 2020. Personne l'a vu parce qu'on était en plein Covid. Pourtant c'était dans le plus grand journal, le New England Journal of Medicine. Et là on avait 34 cas dans un anniversaire de 100 personnes. 34 cas. Un cas index, qui est celui qui reste 90 minutes dans la fête. Donc probablement qu'effectivement, il y a l'hypothèse qu'il faut quand même un contact durable. C'est un point important, hein, parce que souvent on nous dit, oui, il faut faire la différence avec le Covid, mais aussi une transmission par aérosol. Donc c'est pour ça que ces patients sont dans les centres de référence en France. Donc à Paris, il en existe 3, Necker pour les enfants, la Pitié-Salpêtrière et Bichat, qui a les 5 du bateau, et qui sont équipés en chambre à pression négative. Donc ça prouve bien qu'il y a à la fois une transmission par des contacts rapprochés et probablement durable, je répète, avec peu d'informations sur ces cas. Et c'est ce qui s'est passé dans le bateau, avec, il faut le dire quand même, des trous dans la raquette de la surveillance dans toute la chaîne qui s'est passée après.
Ça, on va y venir, parce que effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière ensuite dont les malades ont pu être même dispatchés, certains descendus en cours de la croisière et d'autres depuis même, alors que l'on sait tout ça, dispatché. Gilles Pialoux, vous le disiez, 90 minutes dans une fête, un grand nombre de malades, 11 décédés. Ça, c'est ce cas d'école, en quelque sorte, que l'on a.
C'est sur ça qu'on travaille.
C'est cette analyse que l'on a. Pourtant, au tout premier jour, lorsqu'on a commencé à parler de cette croisière et de cette suspicion, je me souviens que les premiers commentaires disaient « Non, mais c'est une maladie qui ne se transmet pas d'homme à homme. » Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, on manquait d'éléments, qu'elle-même, elle a changé, elle a muté?
Non, mais d'abord, il faut reconnaître que la plupart des gens qui parlent des antivirus, ça, ne connaissaient même pas le mot au début de cette histoire de croisière. Bon, il se trouve, c'est pas pour faire le malin, mais moi, je m'intéresse à l'aspect One Health, qui est un aspect extrêmement important de ce type de virus. C'est-à-dire que ça inclut la santé animale, donc les rongeurs, entre autres, mais surtout les rongeurs, la santé environnementale, puisque c'est extrêmement influencé, la progression chez les rongeurs est extrêmement influencée par la déforestation, l'urbanisation des villes, la pluviométrie, etc.
Il s'agissait, semble-t-il, le lieu où le patient zéro aurait contracté cette maladie, d'une décharge dans laquelle, d'ailleurs, la plupart des locaux disent ne pas aller par crainte de contamination.
Alors, oui, je pense que ça va changer aussi la prévention pour les voyages. J'ai regardé hier soir, en pensant à vous, c'est sur le site du ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il y avait sur cette région-là? Eh ben, le 14 avril, alors je pense que ça a été modifié depuis, ou ça l'était avant, mais depuis le 14 avril, il y a des précautions, justement, pour les personnes qui vont dans ces régions de Patagonie ou du Chili, dont on sait que les rongeurs sont infectés. Donc ça veut dire les protections, c'est de pas ramasser des animaux qui sont morts, de mettre si on est dans un univers non ventilé, de mettre un masque, etc., etc. Enfin, il y a des protections que connaissent les vétérinaires, les forestiers, parce que c'est ces gens-là qui sont atteints par les antivirus. Il faut rappeler aux Français qu'il y a des antivirus qui circulent en Europe et en Chine, puisque c'est deux maladies différentes. Il y a ceux des Amériques et ceux de l'Europe et de la Chine. Et on a, Santé publique France, en 20 ans, a repéré 2900 cas d'antivirus de notre vieux monde,
c'est au fond
et qui sont peu mortels.
C'est au fond la question que j'allais vous poser. Est-ce la première fois que l'antivirus des Amériques a en quelque sorte traversé l'Atlantique et qu'il se retrouve sur notre sol?
Ben, à ma connaissance, alors sauf évidemment si on vient de me contredire, c'est la première fois qu'un service sanitaire européen prend en charge un patient ou une patiente atteint de ce virus des Amériques à transmission interhumaine, qui reste, je le rappelle, exceptionnel.
Qui reste absolument exceptionnel, mais tout à fait aigu. Vous le disiez, effectivement, la rapidité et la difficulté ensuite à y échapper, en quelque sorte. C'est-à-dire, je voudrais vous interroger là sur deux points. Un, la contagiosité. Ça, vous avez parlé de ce fameux banquet, les 90 minutes. Et puis ensuite, la question de la mortalité. Est-ce que il faut toucher un malade? Est-ce qu'il faut embrasser un malade? Est-ce qu'il faut avoir simplement reçu ses postillons? Qu'est-ce qui transmet la maladie?
Alors, dans l'épidémie de 34 cas et 11 décès en Patagonie, ils sont très très bien listés. Donc, la majorité des cas, 75%, c'est une transmission par un contact proche, donc la personne qui est assise à table à côté. Transmission qui peut se faire par les fluides, hein, y compris d'ailleurs par relation sexuelle, puisqu'il faut être très clair, donc la salive, la sueur, toutes les sécrétions, les gouttelettes, comme vous l'avez dit, et effectivement, dans un certain nombre de cas, dans 6 cas sur l'épisode de Patagonie, ils ont rapporté ça à une transmission par les aérosols. Mais là, il y a un débat pour dire qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est-à-dire que le Covid, vous le saviez, on en a suffisamment parlé à cette table, on pouvait être contaminé, même s'il n'y a personne, uniquement par l'aérosolisation de l'espace ou par les surfaces. Vous vous rappelez qu'on n'arrêtait pas de nettoyer, etc. Là, on est quand même dans une contagiosité moindre. Mais on ne peut pas dire, alors qu'il est, que c'est que par contact rapproché. Voilà, c'est ça qui est important.
Contagiosité d'ailleurs, moindre. Oui, allez-y.
D'ailleurs, ils sont hospitalisés dans des chambres à pression négative,
Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est?
En fait, ça veut dire que l'air ne rentre pas.
Il y a deux choses. Évidemment, moi, j'ai besoin auprès de vous de trouver des réponses sur la maladie, mais aussi sur les. Bien sûr, savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, et ce qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs.
Ce qu'on ne sait pas, qui est très important, c'est si le taux d'asymptomatique, contrairement à ce qui a été dit par certains collègues, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de grandes études sérologiques. En Guyane, ils l'ont fait en 2022 quand ils ont eu un 11e cas en Guyane. Ils ont fait une étude sérologique sur les gens qui avaient des infections respiratoires non étiquetées. Bon, ils ont trouvé 1,6% de positifs, donc c'est très peu. Mais on n'a pas fait des études en population générale.
Les asymptomatiques, ça veut dire que...
Comme dans le Covid.
Il faut, parce que je voudrais aussi qu'on en vienne aux réponses, mais pour essayer de comprendre quand même ce que l'on sait, effectivement, cette maladie, on nous parle de 6 semaines d'incubation. C'est-à-dire que pendant 6 semaines...
6 semaines, c'est la barre maximum, donc c'est la barre de la surveillance.
Six semaines.
Voilà, jusqu'à 6 semaines. En moyenne, c'est plutôt 2 semaines.
Est-ce que ça veut dire que entre le moment où vous avez... croiser, contacter potentiellement quelqu'un qui était malade, et le moment où vous développez les premiers symptômes, il y a 2 semaines en moyenne, c'est ça ce que vous nous dites,
voilà.
Mais il peut y avoir jusqu'à 6 semaines.
Il peut y avoir jusqu'à 6 semaines, ce qui fixe finalement, si, imaginons dans le meilleur des cas, que cette personne soit la dernière personne contaminée. Parce que ça a changé la donne, puisqu'il n'y avait plus de cas depuis à peu près 17 avril. Donc effectivement, il y a une espèce de tranquillité sur le bateau, de relâchement, malgré ce que vous avez dit, s'il y en a 36 au moins qui sont partis dans des conditions un peu dans la nature. Et puis, franchement, il y a les 22 aussi français qui vont rentrer dans les centres de référence.
Certains
qui étaient aussi dans la nature.
D'autres ce matin. Voilà. Là-dessus, vous avez l'air vous-même, et je vous ai appelé hier matin sur BFM TV, et une de vos premières réactions, je me permettais de vous poser la question de manière assez naïve, mais pourquoi on ne les a pas laissés sur le bateau? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été les soigner sur le bateau plutôt que de les sortir sur le territoire? Alors, le patron de l'OMS a répondu à une interview de BFM TV hier soir, expliquant, un, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, et puis deux, que ça serait même une atteinte à leur santé mentale que de les laisser enfermés sur ce bateau.
Exactement.
Mais du point de vue médical, il eût été sans doute plus logique de les garder en quarantaine.
Et épidémiologiquement, l'idéal aurait été d'avoir un système de quarantaine, soit aux Canaries, juste devant, avec soit un bateau. Mais l'OMS n'a pas les moyens, encore plus depuis que Trump a enlevé 18% du financement de l'OMS.
Je précise que l'Argentine non plus, d'ailleurs, ne fait plus.
Et l'Argentine qui s'est retirée officiellement quelques semaines avant. Alors pour les complotistes, c'est incroyable, parce qu'on dit, l'Argentine s'est retirée, mais c'est parti d'Argentine, ils font un lien entre les deux choses, ça n'a évidemment pas de lien. Mais c'est vrai qu'on a très peu confiance, et c'est un trou dans la raquette d'avoir l'Amérique et l'Argentine sur lequel on a des doutes sur la qualité des informations qui vont nous fournir sur la circulation de ces virus.
Il eût été en effet peut-être plus prudent de les laisser sur le bateau.
Bien
une
sûr.
Fois qu'ils ne sont plus sur le bateau, il y a le protocole de chacun des pays. On va revenir sur le cas américain et hollandais, mais du point de vue du protocole français, il y a d'abord eu effectivement de manière systématique une hospitalisation des fameux 5 membres de la croisière, et puis une identification de 8 patients dits à haut risque, c'est-à-dire, enfin, patients, 8 personnes cas contact à haut risque qui avaient pris le même avion, donc pendant plusieurs heures, dans un habitacle
là,
fermé avec une personne,
plus que dans le bateau,
la veille de sa mort, puisque c'est une des personnes qui, elle, ensuite, est décédée. Et puis ensuite, 14 qui, eux, sont considérés comme à moindre risque, n'ayant été que quelques temps le début du voyage avant qu'elle ne soit débarquée de ce fameux avion qui, lui, devait revenir en Europe.
Mais vous vous rappelez dans le Covid, au début, on disait les notes de la DGS, c'était de dire on isole les gens symptomatiques. Après, on a dit c'est les gens un jour avant le début des symptômes. Vous savez, on a bougé. Et par exemple, l'histoire du bateau du Diamond Princess pour le Covid, c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'on pouvait avoir un taux important de personnes asymptomatiques, je parle du Covid, qui sont contaminants. On n'a pas cette information-là.
On ne sait pas si aujourd'hui
pas
des gens qui n'ont pas de symptômes peuvent malgré tout être contagieux.
Voilà, on sait probablement qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. On ne sait pas s'ils sont contagieux. Mais, je veux dire, l'histoire a un élément positif, c'est que le fait que cette patiente, dont j'espère que les choses vont s'arranger, et rentrer dans le système de soins français, avec le CNR, l'Institut Pasteur de Paris, celui de Guyane, etc., on va avoir toutes ces données. J'espère que l'Europe va échanger, évidemment que l'Europe va échanger les informations pour faire avancer à la fois la recherche et la prévention sur ces virus.
Placer l'ensemble des cas contacts à l'isolement renforcé, comme ça a été décidé finalement hier soir, ça vous paraît une solution raisonnable?
Oui, on aurait pu même le faire d'emblée.
Vous regrettez que ça n'ait pas
non,
été fait d'emblée?
Non, je ne regrette pas, je comprends, et après il y a la dimension humaine, mais il y a quelque chose, vous savez, l'auto-confinement, c'est un lapsus. Mais
c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est l'auto-isolement,
l'auto-isolement
qu'on demandait effectivement aux cas
contacts.
On en a
eu l'expérience, nous, très pratique, pendant l'épidémie de Mpox, de variole du singe, en 2022. On a dit ça à des centaines de personnes. On leur a dit, vous restez chez vous le temps que vous soyez plus contagieux. Et c'était très long, parce que c'était aussi du côté de 40 jours, à cause de la disparition des lésions, des côtes, etc. pour le Mpox. Et souvent, quand on les appelait et tout ça, on appelait les gens pour leur donner un résultat, savoir comment ils allaient.
Parfois même pour leur dire qu'ils étaient malades.
Oui, on entendait qu'ils étaient dans un restaurant et tout ça. C'est la nature humaine qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer.
Comment vous réagissez à ce moment-là, vous, médecin?
Ben, moi, je vis avec la nature humaine des gens. Donc, il faut faire avec les prises de risque. Oui, je peux pas imaginer que les 22 personnes dont on parle, surtout les 8, et c'est pas du tout un procès que je fais, hein, ont respecté stricteusement ne pas sortir de chez eux, de pas
la
se regrouper.
Il y a
des enfants dedans, par exemple.
Trop tard.
Il n'est jamais trop tard pour prendre des mesures qui sont cohérentes. Après, on verra ce qui se passe pour les 22.
Comment est-ce
qu'on
souhaite...
Mais ça nous emmène loin, puisque finalement, il faut recompter 42 jours. Donc ça nous emmène juin. Quoi.
42 jours, effectivement, et on va être tous extrêmement vigilants. Comment on soigne l'antivirus? Il n'y a pas de médicaments, semble-t-il. Est-ce qu'il pourrait un jour y avoir un vaccin?
Alors je commence par la question de la science, c'est très intéressant parce qu'on parlait des États-Unis tout à l'heure. Les Américains d'avant Trump ont très vite repéré dans un centre de recherche militaire. Alors j'ai oublié le nom de la ville, qu'importe. Ils ont commencé des recherches et des recherches assez avancées avec un modèle de virus de vaccin ADN, des phases 1, donc sur des volontaires sains. Donc ils ont déjà des données avec des anticorps neutralisants, etc. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est un risque. On rejoint les sujets précédents. C'est un risque pour leurs militaires, notamment s'il y a des opérations terrestres, forestières en Amérique du Sud. Vous voyez ce que je veux dire, genre Venezuela. Donc il y a une recherche qui est déjà assez avancée et qui va évidemment être accélérée, sauf que comme vous le savez, il y a un certain nombre de recherches qui sont bloquées par l'administration Trump-Kennedy, notamment sur l'ARN, et que l'ARN est une piste très intéressante de vaccin contre les antivirus qui mutent beaucoup.
Les cas contacts aux États-Unis, pour le coup, eux, n'ont pas été placés à l'isolement.
Oui, alors j'ai effectivement, il y a plusieurs journaux qui m'ont questionné sur ce sujet-là. Il y a eu un volte-face, que normalement ils devaient aller dans le Michigan, tous dans un hôpital, et il y a eu un changement. Mais c'est vrai que tout ça est influencé par la politique sanitaire de Trump et de Kennedy.
Et parallèlement, en Hollande, une erreur visiblement dans l'application du protocole et 12 soignants qui n'ont pas appliqué les règles telles qu'elles devaient l'être et qui se retrouvent eux aussi donc placés à l'isolement de manière préventive. Les 3 personnes qui sont décédées, les personnes qui sont malades, ont-ils un profil similaire? Est-ce qu'il y a un âge, une fragilité particulière que vous pouvez repérer?
Là, c'est pareil, on n'a pas ces informations-là. Évidemment que ce type de virus, en plus, il donne une pathologie respiratoire qui ressemble un peu au Covid, où c'est la réponse immunitaire qui est le plus délétère. Vous savez, on vous rappelait l'orage cytokinique, c'est-à-dire l'orage immunitaire dans l'antivirus, c'est aussi ça qui se passe. Donc probablement qu'effectivement, la logique, c'est que si des gens ont des infections respiratoires et cardiaques, évidemment, c'est un sur-risque. Mais dans l'épidémie de 2018-2019 en Pentagonie, il y avait quand même 6 qui avaient moins de 17 ans. Donc voilà, c'est pas une pathologie que du sujet âgé.
Ou les plus fragiles. Ah. Au moment où on se parle, Gilles Pialou, 24 heures donc après la découverte de ce premier cas, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous diriez que vous êtes vigilant, inquiet, rassurant?
Je crois que tous les experts qu'on questionne, on leur demande alors, c'est comme que vous dites, non, on n'est pas dans une crainte de pandémie. Il y a beaucoup d'éléments qui vont contre l'idée d'une pandémie. Il faut être très clair là-dessus. Faire entrer dans un pays un virus, même si sa transmission interhumaine est rare, même s'il y a probablement, c'est mon hypothèse à moi, après on verra si j'ai tort, la conjugaison de plusieurs événements rares. Un, une transmission interhumaine qui est elle-même déjà rare, donc il faut déjà aller chercher le virus des Andes. Deux, le fait qu'on soit dans un univers confiné, un bateau, c'est une caricature. Et trois, et c'était le cas de la Pentagonie, ce qu'on appelle les super spriders, les super excréteurs, et c'était le cas du cas index, il est possible que ça soit aussi le cas. Donc on mélangerait des cas de rareté, qui fait que globalement on va avoir une épidémie circonscrite. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que effectivement les cas contacts, les gens qu'on n'a pas suivis, ceux qui sortent des écrans radar, le fait que sur le bateau quand même l'alerte sanitaire a été mise très tardivement, vont faire que on aura une épidémie et une épidémie qui inquiète les gens. Voilà, ce sera une épidémie circonscrite. Mais vous pensez bien que après il y a l'irrationnel et on sera voilà, c'est pour ça qu'on parle plutôt des épidémies type SRAS, etc.
Et c'est pour ça que vous appelez aussi à l'humidité ce matin. Merci beaucoup professeur Gilles Pialou d'avoir répondu à mes questions, chef des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Nombreux livres, mais je cite votre dernier, ça s'appelle Admiration, et vous brossez le portrait de 7 figures marquantes de l'histoire de la médecine justement, et c'est aux éditions Perrin. Il est 8h48 sur AMC BFM TV.